La rencontre des deux cortèges se fit à une demi-lieue de Clermont. Quatre héros de la Maison de France, groupés au milieu du chemin, levèrent leurs longues trompettes et lancèrent quelques sonneries graves. Les sonneurs anglais répondirent en soufflant dans des instruments semblables, mais d'une tonalité plus aiguë. Les princes s'avancèrent, et la reine Isabelle, mince et droite, sur sa hacnée blanche, reçut la brève bienvenue que lui adressa son frère, Philippe de Poitiers. Charles de Valois vint ensuite baiser la main de sa nièce, puis ce fut le tour du comte d'Artois, qui, dans la grande inclinaison de tête et le regard qu'il adressa à la jeune reine, sut assurer celle-ci qu'il n'y avait ni obstacle, ni imprévu dans le déroulement de leur machination. Maintenant que s'échangeaient compliments, questions et nouvelles, les deux escortes attendaient et s'observaient. Les chevaliers français jugeaient les costumes des Anglais. Ceux-ci, immobiles et dignes, le soleil dans l'œil, portaient avec fierté brodées sur leurs côtes les armes d'Angleterre. Encore qu'ils fussent, pour la plupart, français d'origine et de nom, on les sentait soucieux de faire belle figure en terre étrangère. De la grande litière bleue et or qui suivait la reine, s'éleva un cri d'enfant. « Ma sœur, dit Philippe, vous avez donc amené de Rochef notre petit-neveu en ce voyage. N'est-ce pas bien éprouvant pour un enfant d'un si jeune âge ?»«
Je n'aurai garde de le laisser à Londres sans moi, répondit Isabelle. »
Philippe de Poitiers et Charles de Valois lui demandèrent quel était le but de sa venue. Elle leur déclara simplement qu'elle voulait voir son père, et ils comprirent qu'ils n'en sauraient pas plus, au moins pour l'instant. Un peu lassée par la longueur de l'étape, elle descendit de sa jument blanche et prit place dans la grande litière portée par deux mules caparaçonnées de velours. Les escortes se remirent en marche vers Clermont. Profitant de ce que Poitiers et Valois reprenaient la tête du cortège, D'Artois poussa son cheval auprès de la litière.
« Vous êtes plus belle à chaque fois qu'on vous voit, ma cousine, » lui dit-il.
« Ne mentez point. Je ne puis certes être belle après une semaine de chemin et de poussière, » répondit la reine.
« Quand on vous a aimé de souvenirs pendant de longues semaines, on ne voit point la poussière, on ne voit que vos yeux. »
Isabelle se renfonça un peu dans les coussins. De nouveau, elle se sentait reprise de cette singulière faiblesse qu'il avait saisie à Westminster, en face de Robert. « Est-il donc vrai qu'il m'aime ? » pensa-t-elle. « Ou bien seulement me fait-il compliment comme il doit en faire à toutes les femmes ?» Entre les rideaux de la litière, elle voyait au flanc du cheval pommelé l'immense botte rouge et l'éperon doré. Elle voyait cette cuisse de géant, dont les muscles roulaient contre l'arçon de la selle. Et elle se demandait si, chaque fois qu'elle se trouverait en présence de cet homme, elle éprouverait ce même trouble, ce même désir d'abandon. Elle fit effort pour se dominer. Elle n'était point là pour elle-même.
« Mon cousin, dit-elle, profitons de ce que nous pouvons parler et mettez-moi au fait de ce que vous avez à m'apprendre. »
Rapidement et feignant de lui commenter le paysage, il lui raconta ce qu'il savait et ce qu'il avait fait, la surveillance dont il avait entouré les princesses royales, le guet-apens de la tour de Nesle.
« Quels sont ces hommes qui déshonorent la couronne de France ?» demanda Isabelle.
« Ils marchent à 20 pas de vous. Ils sont de l'escorte qui vous fait conduite. »
Et il donna les renseignements essentiels sur les frères d'Aunay, leurs fiefs, leur parenté, leurs alliances.
« Je veux les voir, » dit Isabelle.
À grand signe, D'Artois appela les deux jeunes gens.
« La reine vous a remarqué, » dit-il en leur faisant un gros clin d'œil.
Les visages des deux garçons s'épanouirent d'orgueil et de plaisir. D'Artois les poussa vers la litière comme s'il était en train de faire leur fortune, et tandis qu'il saluait plus bas que l'encolure de leur monture, il dit, jouant la jovialité,
« Madame, voici messieurs Gautier et Philippe d'Aunay, les plus loyaux écuyers de votre frère et de votre oncle. Je les recommande à votre bienveillance. Ils sont un peu mis protégés. »
Isabelle examina froidement les deux jeunes hommes, se demandant ce qu'ils avaient dans le visage et l'allure qui pût détourner de leur devoir des filles de roi. Ils étaient beaux à coup sûr, et la beauté des hommes gênait toujours un peu Isabelle. Soudain, elle aperçut les aumônières à la ceinture des deux cavaliers, et ses yeux aussitôt cherchèrent ceux de Robert. Ce dernier eut un bref sourire. Désormais, il pouvait rentrer dans l'ombre. Il n'aurait même pas à assumer devant la cour le rôle déplaisant de délateur.
« Beau labeur, Robert, beau labeur !» se disait-il.
Les frères d'Aunay, la tête pleine de rêves, allèrent reprendre leur place dans le défilé. Les cloches de toutes les églises de Clermont, de toutes les chapelles, de tous les couvents sonnaient à la volée, et de la petite ville en liesse montaient déjà de longues clameurs de bienvenue vers cette reine de 22 ans qui apportait à la cour de France le plus surprenant des malheurs.